Ça y est, on peut le dire, c'est aujourd'hui, pas de doute, ça recommence ici, demain ailleurs. Une semaine de rentrée avec plus, presque plus, on imagine, on en rêve, on n'ose plus de Covid féminin ou masculin, mutant ou pas, comme si de rien, j'ai dit presque.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Une rentrée normale, on croise les doigts et on peut y croire en feuilletant le programme du Festival d'automne. Programmation pluridisciplinaire, internationale et particulièrement copieuse, avec pour cette 50e édition un catalogue de 180 pages. Bonjour Emmanuel de Marcimota.
Bonjour.
Vous êtes en duplex avec nous parce que vous avez eu un empêchement qui vous a empêché de rejoindre nos studios, mais vous êtes surtout metteur en scène, directeur du Théâtre de la Ville et directeur de ce Festival d'automne qui retrouve ses marques et son calendrier, car le précédent, l'édition 2020, s'est passé à l'été 2021. Donc du coup, vous enchaînez.
Quasiment. Vous voyez, c'est les enjeux de l'adaptation pour essayer de sauver l'idée de la création et de la relation, je dirais d'altérité aussi, que l'art propose dans des périodes comme celle-là, est difficile, mais où l'adaptation de tous est nécessaire.
Qu'est-ce qu'un monde sans la création, sans la voix des artistes ?
Alors ça, c'est une question importante que vous posez, c'est-à-dire imaginez le monde dans lequel on est sans tous les tableaux, sans toutes les peintures, sans tous les romans, sans tout ce qui a été écrit, sans tous les films, sans toutes les œuvres finalement. Je dirais même architectural, ce qui fait culture passe par l'architecture, évidemment, le patrimoine de ce qui est laissé, et de ce qu'on peut transmettre, cette idée aussi de la transmission, de la pensée pour le lecteur, mais aussi pour le spectateur. Le mot théâtre, vous savez, en grec, ça veut dire l'endroit d'où l'on regarde, c'est-à-dire l'endroit où l'on se réunit. C'est-à-dire, finalement, sans la création, c'est aussi la perte de la réunion humaine. C'est la perte de la réunion des êtres. On l'a vu pendant la Covid, évidemment, que ça a été très fort, très net, les rassemblements qui ne sont pas possibles. Mais au-delà du vivre ensemble, c'est comment faire ensemble quelque chose. Et c'est cette création-là dont on a besoin, c'est comment se retrouver pour ensemble construire, faire et tracer des listings pour le futur. Pour finir, je pense que la création, c'est l'enjeu du passé, présent, futur.
Le théâtre, c'est aussi la présence des voix, et c'est donc la présence au monde, la présence du monde qui s'incarne dans les voix.
Absolument. La voix, l'oralité même, je dirais par rapport à ce que vous dites, Pascal, c'est cette fameuse oralité de transmission avec tous les sons, toutes les sonorités aussi du monde possible, et ce que nous défendons avec le Festival d'automne, comme le Théâtre de la Ville d'ailleurs, c'est ces sonorités du monde. Ces langues faites de sons, de phonèmes qui nous enchantent, je dirais, l'esprit, les sens, parce que la différence, la curiosité, ce sont les valeurs justement qui sont défendues. Et le théâtre, l'art du théâtre, évidemment, avant d'être celui du corps et celui de la parole, mais de la voix, et de la voix des actrices, des acteurs, qui nous marquent pour toujours. Si on réfléchit bien, même si on n'est pas un grand spectateur de théâtre, mais à travers le cinéma, même la télévision, la radio, on entend des voix qui nous marquent pour longtemps et qui font partie de notre culture personnelle. C'est-à-dire chacun possède en lui quelque chose qu'il peut construire au fur et à mesure des années grâce à tous ces éléments culturels et artistiques.
Alors on vient de l'évoquer, Emmanuel de Marcimota, le monde de la culture et tout particulièrement celui du théâtre a beaucoup souffert tout au long de l'année dernière. Aujourd'hui, septembre, octobre, août plutôt, août aujourd'hui, septembre demain, octobre dans un mois, est-ce que c'est une rentrée normale en 2021 ?
Normal est un mot difficile parce que la nouvelle norme est celle du pass sanitaire, la nouvelle norme est celle de faire très attention avec le maintien du masque pour se protéger et protéger l'autre, surtout. Hein, quand on met un masque, c'est pour protéger aussi celui qu'on a en face de soi. Ce n'est pas que pour se protéger soi. Donc cette nouvelle norme, finalement, est présente. Donc rien n'est normal, mais tout est vivant. C'est-à-dire, c'est ça qui est important, il me semble. C'est comment, justement, l'acte de création, l'acte de réunion humaine, la présence de l'art et de la culture, comme on le disait, dans une ville, dans des villes du monde, est à nouveau présent. Donc effectivement, en tout cas, nous, on a tout fait pour que cette rentrée soit la plus riche et la plus, je dirais, festive, pour pouvoir la célébrer à travers tous ces artistes du monde, et en espérant que, justement, les frontières soient ouvertes, puisque c'est ce que nous défendons. C'est un art sans frontières, un art du passage, un art de l'échange, de l'émancipation, finalement, de chacune et de chacun, à travers la découverte par l'autre de quelque chose qui, parfois, nous est inconnu. Donc, c'est cette curiosité qui est nécessaire.
Mais si on parle de frontières, alors aujourd'hui on sait que les spectacles peuvent avoir lieu, les jauges sont à 100%, même si on doit porter un masque, etc. Mais est-ce que l'un des problèmes, notamment pour vous, Festival d'automne, Festival international, le problème n'est pas la mobilité des artistes ?
Si, c'est l'enjeu, vous avez absolument raison. La grande question, on a souffert de le confinement, le premier confinement, puis le deuxième, puis aujourd'hui, c'est le risque de perdre cette mobilité possible, c'est-à-dire cette rencontre avec l'autre. Comment l'autre que l'on a découvert ailleurs, qui vient du Brésil ou d'autres pays du monde, d'Asie, des États-Unis, d'Afrique, de continents, donc, et de cultures et de pratiques différentes où chacun cultive profondément son art, eh bien, comment cela peut se retrouver ici et maintenant dans notre présent. Alors, l'angoisse, c'est un grand mot, mais disons, notre inquiétude, c'est évidemment qu'est-ce qui se passe dans chaque autre continent. Comment le virus circule, non pas seulement chez nous, ce n'est pas la crainte seulement du ici et maintenant, c'est la crainte d'être au courant de comment les choses fonctionnent ailleurs et comment on va pouvoir recevoir les artistes. Au moment où on parle, les choses sont tout à fait possibles. Au moment où on parle, on est dans une meilleure situation quand même qu'il y a un an, dans la maîtrise, dans la connaissance, dans la possibilité de s'organiser. Donc, au moment où on parle, on a un espoir et que cette rentrée puisse enfin être célébrée.
Alors, nous allons parler des spectacles, des artistes de cette 50e édition. Vous faites d'ailleurs la part belle aux chorégraphes brésiliens. Une dizaine sont invités, dont Lia Rodrigues. Et on sait que la pandémie a été particulièrement violente et meurtrière au Brésil. Lia Rodrigues, c'est une figure marquante de la danse brésilienne et sud-américaine même.
Oui, Lia, comme on dit en portugais, Lia Rodrigues, pour le dire en portugais, c'est une figure importante. Elle a travaillé avec Magui Marin en France. C'est quelqu'un qui parle très bien le français, qui a cette dimension, je dirais, internationale d'ouverture, de curiosité, de connaissance. Et puis, c'est une femme aussi qui a un engagement très important dans les favelas et qui s'est engagée à La Marée, qui est l'endroit qu'elle a construit, où elle permet à des jeunes complètement démunis, à une jeunesse déshéritée qui n'a rien et qui, pour fuir la violence, vient dans ce lieu, justement, ce centre culturel, disons, de culture et d'art, pour pratiquer la danse avec elle, pour pratiquer des ateliers. Et donc, ces danseurs aussi sont dans cette démarche de transmission, je dirais d'éducation, profondément, très attaché aussi aux valeurs de transmission humaniste à travers l'éducation et l'art, ce rapport entre comment pouvoir donner accès à la culture, mais aussi à l'éducation, à la connaissance, au savoir, à des jeunes qui sont dans des grandes difficultés dans les périphéries de Rio de Janeiro. Donc il y a cette femme marque, je dirais, voilà, toute une génération aussi qui fait de l'art un acte essentiel et unique, à travers son geste artistique et sa singularité, mais aussi une pleine conscience du monde dans lequel elle vit et dans ce rapport, je dirais, international, humain, sans frontières, justement, tout en étant très engagée localement. Voilà. Pour moi, elle représente quelque chose de fondamental sur lequel on pourrait prendre beaucoup d'exemples dans la période que nous vivons, qui peut être exemplaire, d'ailleurs, sa démarche, puisqu'il y a cette force d'engagement locale, auprès d'une population et non pas des publics d'un théâtre ou de danse ou de musique, mais d'une population dans toute sa diversité, justement. Donc c'est son engagement pour la diversité et l'accueil et l'accompagnement tout en ayant une pratique artistique internationale. Voilà, ça, je trouve qu'elle elle marche sur les deux jambes nécessaires aujourd'hui pour nous, qui est une pleine conscience du monde dans lequel on vit du point de vue global, du point de vue international et en même temps le point de vue local.
Donc vous consacrez un portrait à Lia Rodrigues, je ne vais pas me lancer sur l'accent brésilien, donc ce sera Lia Rodrigues pour moi, donc un portrait, c'est-à-dire que le public français pourra avoir 6 de ses spectacles, donc appréhender une œuvre dans le temps. Et je me suis dit, puisque des artistes brésiliens sont invités au Festival d'automne, alors allons voir là-bas comment ça cause. C'est donc aujourd'hui la reprise de la chronique Ailleurs, tous les lundi dans De Vive Voix. Bonjour Denise Damasco.
Bonjour.
Vous êtes à Brasilia et dans l'hémisphère sud, pas de rentrée, on est en pleine année scolaire. Vous dirigez la Fédération brésilienne des profs de français. Combien d'étudiants en français au Brésil ?
Nous avons entre 100 000, 160 000 apprenants de français au Brésil et nous sommes 18 associations qui travaillent avec environ 800 professeurs partout au Brésil, du nord au sud, de l'est à l'ouest.
Donc vous êtes une bonne élève de la Fédération internationale des profs de français qui a tenu son congrès mondial cette année.
Ah, mais bien évidemment, on a pu offrir à nos professeurs presque 90 inscriptions pour que les profs aient l'occasion de participer à ces congrès qui a été vraiment très important pour nous.
Alors, au-delà des chiffres, vu l'immensité du pays, comment on fait pour enseigner, pour uniformiser l'enseignement du français dans un tel pays ? C'est un défi.
Ah, c'est un défi. Et surtout, on ne veut pas uniformiser, étant donné que la francophonie, il y a de mouvements, plusieurs couleurs, n'est-ce pas? Et plusieurs sons différents. Si on pense au nord du Brésil, nous sommes près de la Guyane. Et là, on travaille énormément avec le groupe des Guyanes. Si on va vers le sud, on est près de l'Argentine, d'Uruguay. Donc, il y a une autre couleur, la francophonie. Je suis dans le centre du pays, l'architecture, Niemeyer, élève des Corbusiers. Donc, je suis dans une francophonie tropicale à travers les jardins, les vitraux, l'architecture moderne.
Mais alors, pourquoi apprendre le français quand on vit sur le continent américain?
D'abord en Amérique, le Brésil, c'est le pays où il y a le plus de locuteurs de français. Et là, c'est dans notre histoire. Donc, la francophonie, elle est là depuis, il y a des traces commerciales de la France et le Brésil depuis 1503. Et même les professeurs se sont organisés depuis les années 50. Donc, on a la France chez nous.
Mais les Brésiliens apprennent le français pour la littérature, la culture ou le boulot ?
Alors là, bien évidemment, nous travaillons avec les réseaux des alliances françaises. Nous savons qu'il y a plusieurs apprenants qui vont dans ce réseau pour pouvoir voyager, disons. Il y en a qui étudient de la littérature, qui veulent travailler dans la voie enseignante ou dans la voie des langues étrangères. Mais dans les universités, les contextes des centres des langues universitaires, nous avons deux apprenants qui veulent justement lire en français, ouvrir la recherche, connaître la recherche francophone. Donc, je ne peux pas vous dire que tous les apprenants cherchent du boulot, mais il y en a qui cherchent vraiment à étudier le français pour avoir d'autres possibilités dans leur carrière professionnelle.
Merci Denise Damasco, et pour en savoir plus sur vous, il faut lire la revue Le Français dans le Monde qui vous consacre un grand portrait sur 2 pages. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Heureux ou avoir raison, qui se pose vraiment la question? Quand dans ton par conversation suffit-il de bien
Je ne sais pas quoi dire, je n'ai rien à dire, mais je veux qu'on le sache. Et si vous n'avez rien à dire non plus,
déjà quelque chose. Une fois rien, deux fois rien, trois fois rien, ça fait déjà quelque chose.
Et carré dans la narration, je vous écoute, mais...
Pardon.
Non.
J'avoue, je ne sais pas. Recommençons. Une fois rien, deux fois rien, trois fois rien, ça fait déjà quelque chose. Une fois rien, deux fois rien, trois fois rien, ça fait déjà quelque chose.
Mieux vaut savoir ce qu'il faut dire. Mieux vaut savoir ce qu'il faut taire. Savoir n'oblige pas à dire. Savoir dire est un savoir-faire.
Ferme ma bouche à ta façon. Soit d'un baiser, soit d'un paillon.
Ottilie B sur RFI en duo avec Nicolas Jules. Son nouvel album s'appelle Cœur et sa chanson JNSPQD. Emmanuel de Marcimota, est-ce que vous décryptez cet acronyme JNSPQD ?
Non, vous allez m'aider.
Je ne sais pas quoi dire, elle le dit dans la chanson.
J'étais pas loin, j'étais bon, tout près.
Cela dit, oui. C'est rarement votre cas de ne pas savoir ce que vous voulez dire, car directeur du Festival d'automne ou metteur en scène, vous êtes toujours dans la passion et le partage. Vous êtes d'accord ?
La passion, il vaut mieux quand même. Je veux dire, quand on a la chance, tout simplement, je dirais avec humilité, de faire le métier qu'on aime, je pense comme vous, vous êtes obligé de l'exercer, c'est un devoir et passion, je dirais. C'est une passion liée à un devoir à la fois, qui est celui justement de pouvoir partager de la connaissance, de la découverte, de la curiosité. Je pense qu'aujourd'hui, la curiosité va être une chose essentielle. Comment on va être curieux les uns des autres et d'un monde que nous devons tenter de construire ensemble avec des outils d'avant. Je pense au Festival d'automne, justement, qui a 50 ans cette année, au Théâtre de la Ville, à toutes ces grandes entreprises culturelles, artistiques qui ont été pensées dans le XXe siècle et comment on va les transformer et les penser pour l'avenir avec les nouvelles générations également. Je pense que c'est absolument essentiel.
Alors, cette passion, on entend un peu de bruit sur la ligne, mais c'est normal, ce sont des bruits temporaires. Cette passion que l'on évoque, c'est celle que Michel Guy, le fondateur du Festival d'automne, revendiquait aussi, d'ailleurs. Et il faut se souvenir, on est en 1972, donc vous êtes à peine né, Emmanuel de Marcimota, et Michel Guy, qui deviendra plus tard secrétaire d'État à la culture sous Giscard, crée ce rendez-vous pour, dit-il, réveiller Paris.
Festival d'automne, je l'ai créé pour que les fenêtres en France restent ouvertes. On avait le sentiment, à l'époque où je l'ai créé, je n'étais pas le seul, le président Pompidou l'avait aussi, que le paysage culturel français, c'est un paysage un peu hexagonal, un peu bouché. L'idée était de l'ouvrir, pas forcément uniquement à l'avant-garde. Il se trouve qu'à l'époque à laquelle je l'ai créé, disons, le panorama, le paysage culturel mondial était peu connu en France. Il s'agissait donc de le montrer, en commençant naturellement par les démarches les plus avancées, les plus nouvelles, et aussi naturellement, et toujours, les plus abouties.
Emmanuel de Marcimota, pour cette 50e édition, vous vous rendez hommage à Michel Guy. Alors, en 50 ans, on peut dire que quand même tout a changé en France et dans le monde, mais est-ce qu'il faut toujours laisser les fenêtres ouvertes ?
C'est essentiel et je pense que vous le savez comme moi, aujourd'hui le risque justement c'est le repli sur soi, le risque c'est l'État-nation qui a peur de l'autre, peur de l'économie, vous savez comment la crainte, je dirais, du monde fait que la culture se retranche aussi dans un coin et que notre travail, c'est justement de pouvoir, avec passion, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire avec joie, tout simplement, avec simplicité aussi, parce que la passion est un acte de simplicité, d'humilité aujourd'hui nécessaire pour transmettre ces artistes du monde, ces gestes innovants qui nous aident finalement à penser aussi, bien sûr, des blessures, mais penser aussi l'avenir. Penser notre avenir et notre présent, ce qui est essentiel. Aujourd'hui, nous avons besoin de trouver des moyens nouveaux pour ensemble faire que les choses ne se défassent pas ou que la peur ne gagne pas à nouveau.
Mais
dans
vous,
ce sens-là, pardon.
Oui, vous, jeune homme spectateur, est-ce que vous avez découvert des artistes au Festival d'automne que vous n'auriez pas pu découvrir ailleurs, des artistes qui vous ont manqué, marqué et qui ont ouvert votre horizon ?
Je pense que ce que vous dites est très important. Le Festival d'automne, comme quelques grands festivals, Avignon, mais le Festival d'automne avait cette particularité toujours et qu'il continue d'avoir, et ce pourquoi on travaille avec toute cette équipe extraordinaire, formidable, celles et ceux qui sont là depuis le début, Marie Collin, Joséphine Markovitz, qui parcourent, cherchent des artistes dans des orientations qu'on fixe ensemble. Les nouvelles personnes qui ont rejoint ce festival, maintenant des gens qui ont 25 ans, 30 ans, 35 ans, qui l'aiment, on voit bien qu'il y a une passion aussi de ceux qui rentrent dans ce festival et qui y travaillent et qui font partie d'une nouvelle génération et qui ont envie de travailler à sa transformation. On voit que le festival nous a apporté, comme par rapport à votre question, comme il m'a apporté, moi, la possibilité de découvrir des artistes inouïs du monde entier. Quand on pense à Merce Cunningham, c'est le Festival d'automne qui a fait venir pour la première fois cet immense chorégraphe américain et qui a transformé, je dirais, la vision de la danse contemporaine, comme on dit. Pour la musique, le travail qui a été fait toutes ces années autour de la musique dite contemporaine aussi est extraordinaire. Le portrait que nous ferons cette année de Phillip Venables, britannique, extraordinaire. C'est quelqu'un que peu de gens connaissent et ce sont des découvertes. Donc moi, je pourrais vous citer évidemment des souvenirs extraordinaires de quelqu'un comme Klaus Michael Gruber, les Allemands présents au Festival d'automne, les Américains, la danse, tant d'artistes qui sont venus transformer, je dirais, mon regard et mon questionnement sur le monde, comme j'espère que c'est possible pour ceux qui sont réceptifs ou ceux qui veulent le découvrir dans ces mois qui viennent.
Alors, le Festival d'automne dans les années 70 durait 4 semaines. Aujourd'hui, c'est 4 mois, voire un petit peu plus, dans 65 lieux différents de Paris, petite et grande couronne. Mais c'est toujours un festival de découverte et de consécration. Qu'est-ce qui vous guide dans la programmation ?
Alors, je dirais, là, depuis quelques années, j'ai vraiment tenu à ce qu'on puisse prendre le temps de faire ces portraits d'artistes. Ces portraits, c'est-à-dire, non pas seulement de monter une œuvre, de montrer une œuvre et de vous faire découvrir une seule œuvre à un moment, comme nous le faisons toute l'année dans des théâtres et ailleurs, mais de pouvoir justement rentrer en dialogue avec l'artiste autour de l'œuvre globale qu'il a construite. Donc, ce portrait de Lia Rodriguez est très important autour justement de son travail de création sur plusieurs années. Le portrait de Phillip Venables est aussi important. Une jeune artiste, plus jeune, disons, comme Gisèle Vienne, qui est chorégraphe et metteuse en scène avec ses 3 pièces. Le portrait aussi de Force Entertainment, c'est-à-dire avec Tim Mitchell, ce qui vous permet de découvrir plusieurs œuvres d'un même ou d'une même artiste pour comprendre le dialogue qu'il y a entre ces œuvres mêmes. Des expositions, Léonore Antunes, ça c'est quelque chose de très important. C'est-à-dire que c'est une
artiste. Encore une artiste brésilienne.
Alors portugaise cette fois, portugaise.
Lusophone, on va dire.
Voilà, du monde de la lusophonie, mais c'est très. On a eu peu d'artistes portugais présents au Festival d'automne toutes ces années, donc on a tenu à ce que, avec Marie Collin, à trouver l'artiste à présenter, cette femme aussi, puisque nous défendons aussi la présence des femmes artistes, et en particulier dans les arts plastiques, qui ont été toujours présentés. Donc cette présence des arts plastiques, et puis des nouveaux talents, des gens qu'il faut découvrir, qu'on ne connaît pas, qui sont des jeunes artistes. Qu'on va découvrir chaque fois pour une édition, qui viennent du Japon, de France ou d'ailleurs.
Mais est-ce que vous revendiquez, Emmanuel de Marcimota, une certaine subjectivité, un goût, ou est-ce que vous cherchez à marquer le temps et à inviter les artistes importants, tant au niveau français qu'international, en se tenter ?
Je pense qu'il y a des choix qui sont opérés. Avec le festival, il y a des choix, c'est important. C'est des choix qui sont faits d'abord autour de cette création contemporaine. Il s'agit d'artistes qui sont vraiment dans une démarche contemporaine et pas seulement dans une relecture des œuvres du passé. Il peut y en avoir, on peut avoir des moments forts où un artiste va bouleverser entièrement sa lecture d'une œuvre du passé. Mais la recherche est toujours basée, la plupart du temps, dans la danse contemporaine, dans l'écriture théâtrale, je dirais, de plateau, dans ses recherches de nouveaux signes, de nouveaux langages, d'interrogation. C'est l'endroit où on peut essayer de montrer des choses qu'on ne voit pas toujours, tout en accompagnant, je dirais, des démarches comme celle de Robert Wilson, qui va être présent à l'ouverture du festival avec Lucinda Childs, qui aujourd'hui va avoir 80 ans, qui a été découvert, je dirais, grâce au Festival de Nancy, avec Jack Lang, grâce au Festival d'automne avec Michel Guy, puis grâce à celles et ceux qui ont continué d'accompagner cet immense artiste en France. Voilà, de faire aussi le parcours d'un artiste dans des lieux inouïs, puisque Lucinda Childs, la grande chorégraphe américaine, et Robert Wilson seront présents à la chapelle, à la Salpêtrière, dans ce lieu magique inouï, pour une création in situ autour des œuvres de Jean-Sébastien Bach.
Alors, quand on parle de Lucinda Childs, il faut peut-être utiliser le mot de fidélité, qui est un mot que vous aimez bien, je sais, la fidélité aux artistes, puisqu'en effet, quelqu'un comme Lucinda Childs a traversé les différentes éditions de ce festival d'automne. Mais le premier rendez-vous de ce festival, cette année, c'est mercredi, ce sera à l'Opéra de Paris, avec Seven Deaths of Maria Callas, Les Sept Morts de Maria Callas, et c'est une création de Marina Abramović, qui est unique icône de la performance.
I am a flickering flame on a long candle.
Les Sept Morts de Maria Callas, c'est une création qui est très attendue. Bien évidemment, personne ne l'a vu, vous peut-être, Emmanuel de Marcimota, mais l'idée, c'est que Marina Abramović réincarne sept des principaux rôles de la cantatrice.
Oui, absolument, et c'est avec joie, justement, d'ouvrir cette édition du festival avec cette immense artiste qui est une chercheuse, comme les scientifiques, comme des grands, je dirais, intellectuels ou artistes ou tout simplement artisans qui cherchent à renouveler et à incarner des formes, je dirais, du passé dans le présent, avec ses fantômes dans le temps présent. Donc c'est quelque chose, effectivement, qui est un moment important avec l'Opéra de Paris, cette relation pour ouvrir cette nouvelle 50e édition du festival.
Alors ce sera un moment fort que cette ouverture à l'Opéra de Paris, c'est peut-être l'événement le plus attendu et le plus chic de cette édition d'ailleurs, mais je ne veux pas que l'on se quitte sans dire deux mots, quelques phrases de tout ce que vous faites en faveur de l'éducation artistique et ce tout au long de l'année, parce qu'il ne s'agit pas, comme vous l'avez dit, de produire et de montrer des spectacles à un public qui paie sa place ou qui ne la paie pas, mais qui souvent la paie, mais qui est forcément limité. Vous avez aussi à cœur d'éduquer et de transmettre.
Oui, je disais au début combien il est important, bien sûr, de défendre l'idée de la création et de l'acte de recherche authentique à travers des esthétiques et des pensées diverses, mais où des valeurs éthiques sont profondément ancrées. C'est-à-dire qu'à partir de là, la question de la transmission devient essentielle. C'est-à-dire comment s'ouvrir à des nouvelles générations et prendre soin, si vous voulez, je dirais cela aujourd'hui, c'est comment nous devons plus que jamais prendre soin des nouvelles générations, de celles et ceux aussi qui ne sont pas venus dans des théâtres ou dans des lieux d'art. On a cité l'Opéra de Paris. La singularité du Festival d'automne, et c'est ma joie, c'est aussi de pouvoir travailler avec plus de 60 lieux différents, que ce soit un grand théâtre national, un théâtre municipal, un petit théâtre local. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est cette idée de l'horizontalité et non pas seulement de ce rapport vertical à la culture et à l'art. Et donc, comment on peut le transmettre au plus grand nombre en prenant soin les uns des autres avec des nouvelles orientations aujourd'hui, qui est d'ailleurs, dans notre nouvelle équipe du Festival d'automne, dans cette équipe renouvelée, il y a vraiment des gens en charge qui font un travail exceptionnel pour rencontrer les publics dans les écoles primaires, les collèges, les lycées, les universités, mais aussi avec l'hôpital public, puisque nous venons de signer un partenariat très important avec la PHP pour être au plus près du personnel soignant aussi.
Merci,
et les aider aussi. À être
merci
avec
Emmanuel de Marcimota. Le Festival d'automne, donc, à partir de mercredi et pour 5 mois. Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo, Guillaume Ploquin à la réalisation. On se retrouve demain. Ça recommence et ça continue.